Un balado Radio-Canada audio.
Aujourd'hui, le 8 juillet, le CF Montréal surprend loin de la maison. Un choc Angleterre-Italie en grande finale de l'Euro et pas de Coupe du monde à Montréal.
Ici Yacine Camara.
Ici Olivier Tremblay.
Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer.
Sur l'état de la surface d'un frappe. Oh, le but! Oh, le but exceptionnel!
When the seagull follows the trawler. It's
Shabalala! Oh, Mafana, Mafana!
Pirlo, ancora, Pirlo, di tetto! Pirlo!
Cauri, Fleck, Rangistic!
Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Allô, Assoun en direct de son van à quelque part au Canada.
On peut dire ça. Bonjour Christine.
The captain of England.
On sait donc maintenant quelles équipes vont s'affronter en grande finale de l'Euro. On va avoir droit à un choc entre l'Italie et l'Angleterre. It's coming home, ou comme tu dirais, Oli.
It's a coming home.
C'est ça. On l'entendait d'entrée de jeu, le but d'Harry Kane. Là, il faut qu'on parle en commençant de ce fameux penalty. Sterling qui va chercher ce penalty. Et quand on regarde la reprise... Où ça, un pénalty, c'est-tu moi, ou il n'y en avait pas?
Ben, c'est peut-être soft, un peu. C'est peut-être un peu. En même
temps.
J'aime bien, Oli. Un peu, peut-être, un très, très peu soft, tu sais. Très, très soft.
À ça, mais... tu penses que c'en était pas un?
Franchement, ce type de pénalty, les sifflets à ce moment du match, franchement, il faut être fort, hein, en tant qu'arbitre. Parce que.
Habituellement, le sifflet est rangé à ce moment-là.
Mais oui, mais j'aime bien la sémantique que tu as utilisée. Sterling a été le chercher, ce penalty. Il a été le chercher dans la poche de l'arbitre, en fait, qui l'a sorti et qui a dit « Ok, je te l'accorde ». Donc, à ce moment-là du match, sachant qu'on est en prolongation, qu'on est une demi-finale de l'Euro, qu'il y a deux ballons sur le terrain, que je veux dire, c'est difficile de siffler de la sorte face à des Danois qui ont été valeureux, qui ont souffert, c'est vrai, en prolongation, mais qu'on résistait et qui s'amenait tout doucement dans les prolongations, dans les pénalties, dans la séance de pénalties. Donc moi, personnellement, ce type de pénalty, je ne l'aurais pas sifflé, vraiment pas.
Mais on attendait quand même l'Angleterre, en tout cas nous, là, nous trois, on attendait quand même rendu à ce stade, même si on a revu nos prédictions 6 fois. Mais bref, on attendait l'Italie contre, surtout Assoun, l'Italie et l'Angleterre en grande finale. Mais en tout cas, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit plus facile ou plus convaincant. L'Italie qui a gagné en tir de pénalité, on l'a dit, l'Angleterre en prolongation avec un pénalty. C'est-tu moi où ça a été? Mettons, l'Italie, j'ai l'impression que ça a été plus compliqué un petit peu que face à la Belgique. Là.
Ouais, mais je veux dire, il était pas devant 11 cônes orange non plus en face. Je
wow,
pense que l'équipe.
Wow. Simon Kremer, est-ce que tu viens de traiter notre producteur a entendu que tu viens de traiter les joueurs belges de cônes orange?
Non, il n'y a aucune équipe de cônes orange, à part peut-être les Pays-Bas à cause du chandail, là. Mais l'équipe espagnole avait sa place en demi-finale. Au début du tournoi, je pense pas que j'aurais dit ça. Puis, écoute, il s'est passé tellement d'affaires dans le camp espagnol. En plus, la COVID, les joueurs qui sont obligés de venir en renfort puis qui finalement s'en vont, puis Morata, puis ci, puis ça. Mais c'est une équipe qui est montée en puissance dans ce tournoi-là, qui a fait du jeu aussi, puis qui... Pedri est absolument sensationnel. Puis je regarde en vue de la Coupe du monde de 2022, l'Espagne, je sais pas.
Non, mais
il me semble qu'il va se passer quelque chose. Italie-Espagne, je pense que c'est allé un peu comme ça devait aller. Ça allait être un match compliqué pour l'Italie. Mm-hmm. Puis du côté anglais contre le Danemark,
sacré Danemark.
Je veux dire, ils sont vraiment forts, les Danois, mais honnêtement, je regarde la physionomie du match, je pense que l'Angleterre aurait pu gagner en 90 minutes. Je crois sincèrement qu'il aurait pu gagner en 90 minutes, ça n'a pas été le cas, mais sur le fond, l'Angleterre a fait ce qu'il fallait, puis tu as deux équipes en finale qui... Oui, ça respecte la logique, peut-être qu'ils ont dû travailler un petit peu plus fort, mais tu regardes sur l'ensemble du tournoi, il mérite pleinement d'être là.
Oui, mais Asun, n'empêche que c'est la beauté du foot. On est passé très près d'avoir une finale Espagne-Danemark. Mais on n'était pas loin, puis ça aurait pu arriver. Puis, honnêtement, moi, j'étais sûre que ça va être l'Italie, l'Angleterre, mais j'ai douté.
Et oui, ça aurait validé ma prédiction qui mettait le Danemark en avant.
Oui, mais là, finalement, tu as dit l'Angleterre la semaine passée. Là, on ne sait plus, Asun. C'est compliqué.
Non, non. Le Danemark était mon petit pousset depuis le début.
Ça, petit c'est, vrai. C'est vrai, on va te le donner.
Ça ne bouge pas.
On s'était moqué de toi.
Exactement. Mais écoute, le Danemark était valeureux à valider. Ils ont validé un super tournoi. Ils étaient portés, bien entendu, par l'événement tragique. Enfin, ça aurait pu être tragique. D'Eriksen aussi, et une équipe valeureuse. Donc forcément, faut les féliciter. De l'autre côté, Oli, tu parlais de l'Espagne. L'Espagne a perdu, mais ils vont pas en finale. Ils gagneront pas l'Euro, mais ils ont gagné une équipe. Mmh. Et ça, aujourd'hui, c'est super pour eux parce qu'avec toutes les incertitudes et le massacre que Luis Enrique subissait de la part de la presse en Espagne, voir le volte-face qu'il y a dans les analyses aujourd'hui en Espagne, c'est fort parce que il a montré une façon de jouer, il a fait oublier limite une ancienne génération qui a disparu, et il part avec des joueurs extraordinaires comme Pedri, tu l'as dit, qui est juste un joueur fabuleux, extraordinaire. Donc on a hâte de voir ce que ça donne par la suite, et on a une belle finale, sincèrement.
Ouais.
Angleterre-Italie, magnifique finale à Wembley. L'Italie qui va venir avec ce qu'ils nous ont offert, de l'abnégation à défaut de qualité de jeu et de possession face à l'Espagne, mais ils ont tenu, ils ont montré des valeurs extraordinaires. Tu sens la rage et la volonté d'y aller. Moi, c'est juste fabuleux. Je suis fan de l'Italie vraiment et de ce qu'ils ont montré. Et l'Angleterre, écoute.
Mais Asun, tu avais dit la semaine passée, là, ta prédiction, c'était devenu l'Angleterre depuis le massacre de la France, désolé.
Massacre, mon Dieu.
Non, exactement.
Non, est-ce
exactement.
Que tu maintiens ta prédiction? Est-ce que tu continues de croire que l'Angleterre est ce qu'il faut pour battre l'Italie?
Bah, je ne sais pas, franchement, ça va être une finale ouverte. Écoute, il y a tout pour que l'Angleterre gagne. Je veux dire, ils ont une belle équipe, ils sont à domicile. Il y a Beckham dans les tribunes, il y a la reine, il y a tout le monde, tu vois. Je veux dire, il y a tout pour qu'ils gagnent, et en même temps, il y a tout pour qu'ils laissent filer justement cette coupe et que ça soit la plus grande déception que connaisse l'Angleterre, encore une fois. Ça reste l'Angleterre, exactement. Et c'est pour ça que j'arrive pas à me prononcer sur cette finale-là, parce qu'au vu de ce que l'Italie propose et qui est juste... T'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut les arrêter. Même un match un peu plus en dedans face à l'Espagne, ils ont réussi à s'extirper de là. C'est avec intérêt que je vais regarder cette finale et juste l'observer parce que je ne serais même pas capable de me prononcer franchement sur cette finale-là.
Tu sais, je fais des blagues sur l'Angleterre, mais j'ai l'impression que tout le passage de Gareth Southgate, ça a servi un peu... Tu sais, Marc Bergevin parle de quoi? C'est reset? En tout cas, tu sais, on repart à neuf un petit peu. Sans nécessairement s'éloigner complètement. Mais tu sais, l'Angleterre gagne maintenant des matchs qui vont en tir de barrage. Ça a commencé à la Coupe du Monde il y a 3 ans. Ils arrivent à justement garder à gagner des matchs serrés. Les déceptions sont... Tu sais, c'est pas les déceptions anglaises de d'habitude. Fait que je trouve ça tannant. Tu sais, je maintiens le cap sur l'Italie là,
ouais,
mais là, je les trouve vraiment, vraiment tannants, les Anglais.
Mais comme vous avez dit, ça risque d'être une très belle finale. Pour l'instant, Ali, t'es en voie de gagner ton pool.
Ouais.
Notre pool.
Ça va être 3-2. Ah. Okay. Ça va être 3-2 pour l'Italie avec 2 buts de Harry Kane. Comme ça, Harry Kane finit meilleur buteur du tournoi. L'Italie gagne le tournoi.
Donc,
je gagne une prédiction
de
plus.
On ne sait pas encore qu'est-ce que tu gagnes. On va voir le budget de Simon Kremer ici derrière la console. Mais parallèlement, il y avait un autre tournoi, la Copa América. Finale, personne n'est surpris entre le Brésil et l'Argentine, entre Neymar et Messi. Surpris, mais en même temps, finalement, c'est quand même ce qu'on attendait. Ça a failli pas être le cas.
Oui, mais on attend tout le temps ça, puis on veut que ça arrive. Puis on dirait qu'il y a tout le temps, genre, un Chili qui arrive pour venir brouiller les cartes, puis des trucs comme ça, tu sais.
Mais c'est l'occasion.
J'adore le Chili, le pays, il le met, là, mais à un moment donné, c'est parce qu'on veut un Brésil-Argentine de temps en temps.
Mais voyons, voilà, tes vœux sont exaucés.
Ben oui.
Et quand même, ça nous permet de parler de Messi. 4 buts, 5 passes, impliqué dans 9 des 11 buts de son équipe jusqu'ici.
Il va devenir quelque chose, lui.
Puis il est pas pire, hein, ce jeune-là. Non, mais il continue à accumuler des records. Le plus de participation, j'allais dire d'appearance, mais là, on est au Canada français. Bref, 150 matchs pour l'Argentine, 6 Copa América en carrière, le plus de passes dans un seul tournoi.
Et par une retraite internationale, puis un retour sur sa décision.
Puis là,
il s'en passe.
Comme par hasard, son contrat a pris fin avec le FC Barcelone. Qu'est-ce qui va arriver avec Messi? Là, justement, les dernières rumeurs, c'est que Barcelone aurait offert à Chelsea Antoine Griezmann pour trouver des fonds pour Lionel Messi. Quel joueur exceptionnel. Et là, je veux dire, c'est mon équipe, vous le savez. Est-ce que vous pensez que Messi sera de retour avec le FC Barcelone? Faites attention à ce que vous dites.
Non, mais je le dis depuis le début. Inter Miami, let's go.
Inter Miami. Mais Toronto, il a besoin d'aide.
Oui, c'est ça.
Hassoun.
Non, il y sera, bien sûr. Il y sera. Je pense qu'il y sera. C'est vrai que c'est compliqué au niveau, sur le plan du salary cap imposé au FC Barcelone, de trouver de la place pour Messi. Mais j'ai l'impression qu'ils ont trouvé la meilleure façon de le faire, c'est-à-dire qu'ils ont... Le Barça a fait fuiter une vidéo d'insultes de Griezmann et Dembélé pour les pousser à sortir du Barça et trouver une façon de les sortir du Barça et faire de la place pour Messi. Je plaisante bien sûr, mais non, écoute, moi je n'imagine pas Messi ailleurs. Bien entendu, il y a eu des rumeurs pour le PSG, d'ailleurs, à une certaine époque. Ça aurait été formidable qu'il y aille au vu de la situation de l'époque, mais je pense que c'était un rapport de force que voulait imposer Messi. Nouveau président qui arrive, une nouvelle volonté de jouer, et j'imagine vraiment Messi finir sa carrière, en tout cas ce que je lui souhaite, jouer sous ce maillot, cet unique maillot, et puis finir sa carrière au Barça. Ce serait une histoire formidable pour lui.
Tu y crois aussi, Oli?
Ouais, de plus en plus. J'ai voulu la jouer romantique puis dire qu'il allait être réuni avec Guardiola, avec un truc comme ça, qu'ils allaient arriver à s'entendre à nouveau et tout ça. mais sincèrement, je pense que c'est ça. Messi et Barcelone, c'est un peu indissociable.
Ouais.
Donc,
attention, Oli, hein, tu sais, je t'interromps, mais... Sergio Ramos et le Real Madrid, c'était un peu...
Pendant que tu parlais tantôt, je pensais justement à Sergio Ramos. Ce matin, les photos ont commencé à sortir de Ramos avec son maillot du PSG, puis je regarde ça, puis je suis comme... Hein?
Ouais,
quoi? Même si le gars, avant, jouait à Séville, puis c'était un garçon formé à Séville, puis après ça, il est arrivé au Real Madrid, tout ça, je veux dire, il y a un antécédent d'avoir joué ailleurs, mais c'était vraiment bizarre. Fait que Messi, tu sais, Messi, je veux dire, puis Barcelone, ça, c'est pas seulement une histoire de sport, je veux dire, c'est une histoire de vie. Un garçon qui quitte son pays avec sa famille, puis qui subit des traitements d'hormones de croissance et tout ça, je veux dire, ça va plus loin que le simple sport.
Mais à cause Ronaldo de ça, avait dans l'uniforme Juventus, c'était bizarre aussi au début.
Ouais, mais Ronaldo en même temps, je veux dire.
Quoi? Fais attention à ce que Ronaldo, tu dis à son écoute.
Ouais, mais Ronaldo, c'est pas comme si c'était je veux dire, c'est une icône du Real Madrid, mais je veux dire, c'est pas...
C'est pas comme si c'était une icône mondiale.
C'est pas... Je veux dire, tu passes par le Sporting Portugal, après ça, tu t'en vas... Après ça, tu t'en vas à Manchester United. Après ça, tu t'en vas au Real Madrid. Je veux dire, il était capable de s'en aller. C'est pas comme si on s'imaginait qu'il allait nécessairement finir sa carrière au Real Madrid.
Ce que vous me dites, c'est que vous pensez que Barcelone va réussir à garder Lionel Messi, mais en même temps, il n'y a rien d'assuré. Ça se pourrait.
Je verrais un scénario aussi où est-ce que Messi dit « Ah, regarde, finalement, j'ai plus vraiment tant besoin d'argent. Je vais aller jouer pour 15-20$ par match New Old Boys. »
Non, mais je pense que lui, il se voit terminer sa carrière, comme tu dis, à Sun Camara, dans l'uniforme du FC Barcelone. Mais tu sais qu'on en a parlé un peu avec Ronaldo pendant la Coupe du Monde, puis Messi, c'est un peu la même histoire. Il y a des joueurs qui déclinent énormément. Puis là, on voit la Copa América que... Bon, il a bien beau avoir 34 ans, ce qui est extrêmement jeune, je tiens à préciser. Mais il est encore capable d'être dominant. Et on va terminer ce segment-là en parlant juste des coups francs de Messi. Il n'y a pas grand-chose de plus beau que ça dans le monde du foot.
Ben, OK, un coup franc de Damsgaard.
OK, mais bref.
C'était correct aussi.
Okay. C'était beau aussi.
Moi, c'était mon côté romantique, les coups francs de Lionel Messi. Bref, finale de la Copa América.
Tu as vu Pat Bernier tirer un coup franc, c'est pas pire aussi.
J'ai vu un penalty hier, en fait, dans le match du CF Montréal. Il y a un penalty qui avait un peu de Patrice Bernier, mm-hmm. hein, dans la fin, n'est-ce pas? Un peu d'Assun Camara. Assun Camara en penalty, ça ressemble à quoi?
Oui, en moins de 13, je tirais les pénalties. Quand j'avais 13 ans, c'était, ça ressemblait à ça aussi.
Puis ils ont décidé d'arrêter ça, là.
C'est ça.
Les gars, on va se quitter bientôt, mais avant, je pense que c'est super important de parler un peu de la décision de la Ville de Montréal de se retirer comme ville candidate pour la Coupe du Monde 2026. Et là, il y a vraiment deux camps. Et moi, personnellement, je suis un peu divisée entre les deux. C'est d'un côté, il y en a qui disent « Bon, ben on est mauvais. On a perdu une belle occasion d'avoir une super belle visibilité sur la scène internationale, ce que ça a ramené au niveau économique, culturel, sportif. » Mais d'un autre côté, je me dis « 100 millions de dollars, pourquoi là, 3-4 matchs? Qu'en pensez-vous? » Assun, je sais que tu as été beaucoup questionné sur ce sujet cette semaine, justement.
Oui, écoute, personnellement, je suis déçu. Je suis vraiment déçu de la décision. J'espérais, en fait, qu'on arrive à trouver une solution pour accueillir des matchs de la Coupe du Monde. Malheureusement, ça ne se fera pas. Et c'est vrai que j'entends les arguments. C'est sûr que financièrement, c'était un gros investissement de demander. Beaucoup d'infrastructures à remettre en place aussi. La COVID qui a touché aussi et qui n'arrange pas... les caisses du gouvernement, mais je veux dire, c'est pas sur le plan comptable seulement que l'analyse se fait. Et tu vois, on peut pas dire, c'est difficile de dire c'est 100 millions pour 3 matchs, c'est pas seulement pour 3 matchs, c'est aussi pour la culture soccer ici au Québec, c'est aussi pour le rayonnement de Montréal et du Québec à l'international. Et je pense vraiment que les retombées auraient été sur l'événement en tant que tel, mais aussi par la suite intéressante et qu'il y aurait eu d'autres dérivés, je sais pas, sur le tourisme ou d'autres choses derrière qui en découleraient, mais autre que l'appui financier, moi, je pense que ce qui me fait le plus mal, c'est le sentiment que le soccer, c'est pas très important, en fait, pour nous. C'est ça, en fait, qui me rend la décision difficile et qui me fait dire que les autorités locales ne supportent pas assez ou ne mettent pas le même entrain qu'on pourrait mettre dans un autre sport, entre guillemets, ou une autre religion qui est le hockey, qu'on pourrait mettre dans le soccer, alors que il y a beaucoup d'amoureux du soccer et je pense à ces jeunes qui auraient rêvé de vivre quelque chose d'extraordinaire ici à Montréal et qui en sont privés tout simplement. Donc oui, moi je suis extrêmement déçu de la décision.
Oli, on ne peut pas être contre ce qu'Assun dit, mais c'est sûr qu'en 3 ans, la ministre Caroline Proulx a dit que les coûts estimés avaient doublé, passé de 50 millions à 100 millions de dollars. Puis c'est sûr que là, ça a changé la donne.
Puis un coup que tu dis oui, un coup que tu t'entends, est-ce qu'il va y en avoir un autre 100 millions qui se rajoute à ça? Je veux dire, je pense que, tu sais, chat échaudé craint l'eau froide. Là. Je pense que d'un point de vue politique, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié certaines des démarches de la FIFA, certaines des exigences de la FIFA, puis on craint, je pense, à juste titre, qu'il y a une belle expression en anglais, « moving the goalposts ».
Mais est-ce que c'est le problème, Oli? Peut-être les exigences de la FIFA seraient à revoir. Là.
Les exigences sont à revoir, mais de deux, même si tu penses que tu as un terrain d'entente avec la FIFA ou tu penses que tu es sur la même longueur d'onde, là, ils changent l'histoire à un moment donné. Ils changent les paramètres. C'est ça que ça veut dire, « moving the goalposts ». Tu changes les paramètres sans en parler à qui que ce soit ou plutôt en mettant les gens devant les faits accomplis. Donc, dans cette situation-là, oui, j'entends on va reprendre mon mot, mais les arguments romantiques, mais je pense qu'effectivement, d'un point de vue pragmatique, ça devenait une décision extrêmement difficile à justifier. Et il ne faut pas oublier aussi, il y en a déjà eu une Coupe du Monde à Montréal. On a eu la Coupe du Monde féminine. Moi, je reprendrais ça à la place.
Ouais. Ouais, si tu veux. Mettons. Ouais, évidemment, c'est pas le même investissement, mais si tu veux développer le soccer local, si tu veux montrer ton appui puis aller chercher peut-être une clientèle différente, ça serait un bon move. T'es un pas pire gars, un bon businessman, comme on peut dire.
J'ai beaucoup de plaisir.
Moi, j'ose honnêtement que... j'ose espérer que ça va forcer la FIFA à revoir peut-être sa façon de faire, parce que là, je me demande quel pays va pouvoir oser accueillir dans à l'avenir une Coupe du monde de soccer. Ça devient vraiment compliqué.
Quand c'est rendu même compliqué pour le Brésil, qui est supposé être une des grandes nations... Oui, bon, les cyniques vont dire qu'ils ont les plus grands joueurs et les pires administrateurs.
Oui.
Mais tu sais, quand même, une nation comme ça peine à se relever des conséquences d'une Coupe du monde puis des stades qui ont été placés à des endroits vraiment inusités où est-ce que tu t'en sers pas, t'as dénaturisé ton stade national qui est le Maracana, qui ressemble plus au bâtiment mythique qu'on connaissait. Quand même ça, c'est rendu difficile. Je veux dire, est-ce qu'on va vraiment voir un autre Afrique du Sud, par exemple, où on a le Qatar qui est une nation émergente, dirons-nous, mais j'ai l'impression que tous ces événements-là vont se retrouver dans des pays développés ou est-ce que...
Oui, ben, des nations qui sont capables d'assumer ce que le Qatar assume présentement.
Ça devient difficile de voir qui va pouvoir assumer ces coups-là à un moment donné.
Puis on se fait l'avocat du diable parce qu'honnêtement, on est trois amoureux du soccer puis on serait les premiers à être très excités d'aller couvrir ou voir pour le plaisir des matchs à Montréal. Ben. Espérons que ça arrive un jour et pourquoi pas, comme tu dis, d'ici là, la Coupe du monde féminine avec plein de belles jeunes joueuses québécoises qui sont en pleine émergence. Dans mon oreille, on a un réalisateur qui me parle, qui a une question. Simon voudrait faire une Coupe du monde éclatée. Oli, qu'en penses-tu?
Je suis tellement pas d'accord.
Sois poli, là. On veut que le balado soit publié aujourd'hui.
C'est trop loin.
Ouais, j'ai peur qu'on perde le folklore justement de ce qu'amenait la Coupe du Monde dans un événement, un endroit unique. Après, ça a des avantages de faire participer des populations différentes, mais c'est vrai que, je sais pas moi, même en tant que spectateur, le fait d'avoir pour idée d'aller voyager dans un pays, de non seulement découvrir des matchs, mais aussi une culture avec l'histoire et tout ce qui va avec, c'est un peu la formule que j'aime et le rôle a fait aujourd'hui. C'était bien, ça a bien été amené, mais je suis plus fan du fait de voir beaucoup de partisans se réunir au même endroit et partager des bons moments.
On s'excuse, Simon, mais on espère quand même que tu as aimé notre épisode puis que tu vas le publier tantôt. Simon fait dire, Olivier, que certains de tes segments vont être coupés au montage.
Je peux vivre avec les conséquences, ça va.
Puis on n'a pas parlé de Olivia Moultrie, mais je vais quand même le mentionner, la jeune joueuse de 15 ans qui se battait depuis des années pour avoir le droit de jouer professionnellement. Elle a finalement signé avec Portland et a disputé un premier match. Et Olivier, on en parlait avant d'entrer en onde. Quel bon timing pour elle, parce que là, la moitié des équipes de la NWSL sont parties avec leurs équipes nationales pour les Jeux olympiques. Donc, probablement qu'elle va avoir beaucoup de temps de jeu, avoir la chance de se développer, puis on a bien hâte de voir ce qu'elle pourra faire.
Et si vous voulez voir qu'est-ce qu'elle peut faire, ben vous pouvez regarder les Thorns contre le Gotham FC dimanche à 15h en même temps que la finale de l'Euro.
Moi, je sais ce que je vais choisir, mais je le dis pas ouvertement.
L'enregistreur numérique va fonctionner fort.
Oh yes, au moins le Canadien est éliminé, donc une chose de moins à regarder.
Non, mais on peut regarder ça sur les internets. Ça.
Ouais,
tu peux faire
puis je vous invite à regarder les matchs de la NWSL, des super bons matchs, excellent niveau, puis ça nous permet de voir les futures vedettes de demain. Et on accueille aujourd'hui Raphaël Guillemette, journaliste pour Radio-Canada en direct de Toronto. À salut, Raph.
Bonjour, Christine.
On va tout de suite parler de ton équipe, Toronto FC. Qui pensait que Toronto FC se retrouverait bon dernier de la MLS à ce stade-ci de la saison? En tout cas, pas moi.
Les supporters du CF Montréal. Wishful thinking, comme on appelle.
Donc, écoute, Raphaël, Toronto FC qui a gagné hier, mais qui a mis fin à une série de quoi? 6 défaites, dont une défaite de 7-1, à la suite de laquelle on a congédié l'entraîneur. Comment t'expliques, Raphaël, que Toronto est passé d'une... On peut dire quasiment une puissance dans la Ligue à...
Ça.
La risée.
Ben, c'est difficile de l'expliquer. Dimanche, quand on a congédié l'entraîneur-chef Chris Armas, le président Bill Manning, le directeur général Ali Curtis, a fait un point de presse dans lequel il tentait justement d'expliquer ce qui s'était produit. Et on voyait qu'il y avait du mal à mettre le doigt sur la raison particulière. On a été avec le bouc émissaire Chris Armas, mais qui est aussi responsable, en bonne partie, selon moi, des problèmes de l'UFC cette année. Pourquoi? Parce qu'après 7-8 ans de Greg Vanney, on a décidé d'aller pour une nouvelle stratégie, un nouveau personnel d'entraîneur. On a changé du tout au tout la direction de cette équipe-là sans vraiment apporter de modifications à l'effectif, à part l'ajout d'un joueur désigné, là, Yatersen, sautait le dos. On a été pour un pressing haut sur le terrain qui finalement ne cadre pas en tout avec l'équipe qu'on a sous la main présentement. Josie Altidore était en froid avec l'entraîneur Armas en plus, ou de quelques matchs seulement, s'entraînant à l'écart de l'équipe. Donc, c'est difficile d'expliquer. Il y a eu des blessures. Le directeur général, ça m'a fait rire, le directeur général du TFC, Ali Curtis, a dit « Oui, mais il y a le déménagement temporaire en Floride et tout ça. » Mais la première chose que je me suis dit aussi, c'est « Bon, ben, CF Montréal, lui aussi, s'entraîne et joue en Floride. » Et pourtant, il est rendu quatrième au classement de l'Est. Comment est-ce que ça fait que le Toronto FC croit peut-être un meilleur effectif que le CF Montréal, de meilleurs moyens de gagner, fasse aussi mal pendant la saison? C'est difficile de l'expliquer. Et je le disais, une défaite de 7-1 contre le DC United. DC United, c'est pas la puissance de la MLS non plus, là. C'était la preuve
que les joueurs quand même, hein?
PFC avaient abandonné leur entraîneur. On a dit, bon, il a perdu son vestiaire. On peut choisir tous les qualificatifs que vous voulez, mais essentiellement, Chris Armas n'était plus l'homme pour diriger cette équipe-là. Et là, ben, on se demande un peu la direction qu'elle va prendre.
Oui, mais justement, Raphaël, est-ce que toi qui es proche de l'équipe, là, est-ce que tu penses que, bon, là, son bon dernier, on va oublier cette saison-là, là, mais est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de se remettre au droit chemin? C'est quoi la solution? Et là, tu me dis, c'est peut-être le choix de l'entraîneur qui va déterminer qu'est-ce qui va arriver par la suite. Là.
Bien, déjà, les blessures, on les a de côté maintenant, parce que Alejandro Pozuelo, qui était joueur par excellence de la dernière saison, est revenu au jeu. On voit qu'il a retrouvé la forme, ça va. Jefferson Soteldo semble en confiance également, ça va. Yossi Altidore pourrait revenir avec l'équipe dans les prochains jours parce que là, il y a une pause de 9 jours qui attend l'équipe à Toronto également, retour au pays. Ça pourrait aussi aider la formation. Le problème, c'est le jeu défensif de l'équipe qui était mis à mal par le système qu'employait Armas. Là, c'est son adjoint Javier Perez qui a pris les commandes pour le match de mercredi que Toronto a gagné de toute attente. 3-2 contre la Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Et là, on se demande, OK, mais est-ce que c'est lui le nouvel entraîneur de l'équipe? Parce que la direction, elle, en fin de semaine, sous-entendait, ça va être Javier Perez mercredi, on a 9 jours de pause, ensuite, on va se magasiner un entraîneur-chef par intérim, et à l'été, on se trouvera peut-être un entraîneur-chef pour la prochaine saison. Donc, essentiellement, ils ne savent pas trop où est-ce qu'ils s'en vont, ils se disent... Peut-être que Perez va faire la job. Si c'est le cas, on va le garder, tant mieux. Ça nous fera moins de travail à faire. Mais si ça ne fonctionne pas, bien, on avait dit que ce n'était pas notre première option et on va se rabattre sur un autre choix pour le reste de la saison. Je vois très mal le Toronto FC remonter la pente en raison justement de ce manque de couilles de la direction du Toronto FC.
Rien
Ils ont
de
seulement
moins,
8 points au classement général. Comment est-ce qu'ils vont faire pour retrouver le portrait éliminatoire? C'est possible. Ils accusent 8 points sur la dernière place en série. Il y a des équipes qui ont des matchs en main.
Pour vrai, c'est pas mal. On s'entend pour dire que c'est pas mal impossible. Mais je me souviens, on avait fait nos prédictions en début de saison. Hassoun, si je me trompe pas, t'avais vraiment pas prédit que Toronto FC aurait autant de difficultés que ça.
Non, je l'aurais pas prédit. Sincèrement, je suis très surpris et l'organisation du Toronto FC l'est tout autant. Je suis d'accord avec l'analyse qui était faite. Je trouve que la ligne directrice est beaucoup moins claire que ce qu'on avait par le passé. Changement d'entraîneur, changement de philosophie. Et puis par la suite, moi j'avais vu un article en fait de Quentin Westberg, donc excellent gardien du Toronto FC par le passé, qui avait parlé aux médias français et qui disait que, mais ouvertement, hein, j'étais très surpris par ça. Bah, qu'il était perdu en fait dans la philosophie de jeu, que l'équipe ne savait pas trop où elle s'en allait, et c'est frappant de voir à quel point, bah, je pense pas qu'il était visionnaire là, mais je veux dire, on le ressentait aussi. On parle de Josie Altidore qui fait ses frasques aussi et qui a un gros dossier à gérer parce que c'est une grosse personnalité, un super joueur, mais c'est une grosse personnalité dans le vestiaire. Et quand t'as tes cadres qui ne collent pas ou qui n'adhèrent pas à ce projet dont on se pose des questions aussi, forcément, ça peut être que négatif. Donc, c'est compliqué pour eux aujourd'hui. Mais attention, Toronto peut se relever. Ils peuvent se relever parce qu'ils ont le potentiel. Il y a des bons jeunes, il y a des super joueurs aussi. Et je pense qu'avec une ligne directrice un peu plus claire, ils peuvent remonter ce déficit qui est difficile aujourd'hui. Mais On a vu en MLS des équipes se retourner aussi. Je pense à DC United qui avait l'habitude de le faire aussi. Donc, on est capable de voir Toronto se relever, se qualifier pour les séries.
Raphaël?
Mais c'est important de préciser, l'entrevue en fait que Westberg a accordée a finalement été corrigée par le journal Le Quotidien auquel elle a été accordée. Du Toronto FC, on se défendait pour dire qu'il avait été mal cité.
Évidemment.
En fait, on dit que c'est un problème de traduction.
C'est toujours comme ça.
Je trouve ça étonnant, venant d'un gardien franco-américain qui donne une entrevue à un média français. D'après moi, c'est pas la traduction qui a été le problème. Il a simplement voulu sauver la face. Mais effectivement, et Westberg, d'ailleurs, il était numéro un l'an dernier. Cette année, Armas a favorisé Bono. Mais c'est aussi parce que Westberg a été touché par la COVID, toute sa famille également. Il avait été retenu au pays. Ça avait été très difficile. Je pense que le Toronto FC va pouvoir se reprendre. S'unir autour de ce potentiel nouvel entraîneur, Javier Pérez. Les leaders vont faire leur travail. Altidore va potentiellement revenir avec l'équipe. Il y a une marge de manœuvre, mais de là à dire que le Toronto FC va se classer pour les séries éliminatoires, c'est un long shot.
Ouais.
Je ne mettrai pas mon hypothèque là-dessus.
Parce que là, Olivier, Toronto a gagné hier, victoire de 3-2, mais tu sais, c'était pas convaincant. Là. Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'on vient de changer le vent de côté et que là, vraiment, le Toronto est en pleine possession de ses moyens ou pas du tout?
Non, absolument pas. Je pense que c'est l'électrochoc habituel quand on change d'entraîneur. On a vu une équipe sortir en Lyon, puis dans la première demi-heure, il était absolument sensationnel, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais après ça, on a vu l'équipe potentiellement championne qu'il y avait en face, le Revolution, recommencer à jouer comme elle le peut. Ils ont tenu bon. Je pense qu'il y a énormément de travail à faire encore, d'autant plus que, oui, on parle de ligne directrice, mais on sait pas trop encore comment on va l'établir. Puis à travers tout ça, je peux pas m'empêcher de penser à quel point ça paraît bien pour Greg Vanney, tout ça. Parce que là, Greg Vanney est parti, puis au-delà de ce qu'il fait à LA, je pense que c'est ce qui n'arrive pas à Toronto en ce moment, qui montre à quel point cet homme-là a réalisé de grandes choses pour ce club-là. Oui, c'est toute une machine derrière tout ça, mais Greg Vanney, je pense, est un de ces entraîneurs-là, peut-être parce que c'est un produit local, on parle local, Amérique du Nord, mettons, mais je pense qu'on n'a pas accordé le mérite qui lui revient à Greg Vanney, et ce qui arrive à Toronto en ce moment, je pense, me conforte dans cette position-là. C'est un très, très bon entraîneur qu'ils ont au Galaxy de Los Angeles maintenant.
J'ai comme l'impression que le téléroman du Toronto FC n'est pas terminé. Donc, Raphaël, on va avoir l'occasion de se reparler au cours de l'été. Dès qu'il va y avoir d'autres nouvelles, d'autres défaites. Quand Josie va parler, c'est ça, quand il va y avoir une autre chicane. On se reparle à la prochaine chicane. Merci beaucoup, Raphaël Guilmette, journaliste à Radio-Canada Sport à Toronto.
Merci.
Olivier Assoun. Si on ne s'attendait pas à ce que Toronto termine dernier, est-ce qu'on s'attendait à ce que le CF Montréal se retrouve au quatrième rang?
Donc, on avait tout prédit ça.
Donc, victoire de 1-0 contre Miami, victoire de 2-1 contre New York. Donc, deux victoires consécutives, 5 matchs sans défaite. Et on en a parlé la semaine dernière. On s'était dit, le classement serré, c'était pas convaincant, leur retour après la pause. Mais tu sais, il y a une semaine, là, le CF Montréal était exclu des séries. Et là, il se retrouve en quatrième place. Et là, il rentre à la maison pour venir s'entraîner. Êtes-vous surpris, Oli? T'es-tu surpris de voir la prestation de CF Montréal lors des deux derniers matchs?
Je suis surpris dans la mesure où on prend ce que le CF Montréal avait fait puis on regarde qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Puis je suis pas surpris dans la mesure où c'est la MLS puis tout peut arriver dans cette maudite ligue-là. Mais non, sincèrement, je pense qu'on connaît le travail défensif maintenant que cette équipe-là peut faire. Et là, moi particulièrement, le match de milieu de semaine hier contre... Voyons, je vais-tu finir par le dire? Jésus-Marie-Joseph, c'était contre qui? J'ai un gros blanc.
Hier?
Ouais.
New York?
Hey, faut que je me couche plus tard.
Il y a trop de matchs.
Faut que je me couche plus tôt les soirs de match. Plus tard, t'es sûr? Je devrais jamais me coucher. Contre New York City, en plus, je lui ai parlé la semaine passée. Contre New York City, il y avait vraiment un plan offensif. On voyait quelque chose qui se passait. Puis je vais faire référence à quelque chose qui date de l'époque de Assoun. Puis tu sais, j'ai vu quelques tweets passer comme quoi l'impact, ça subissait un peu contre New York, puis ça envoyait des longs ballons devant. Mais tu sais, ça peut être un plan défini. Je me souviens la demi-finale contre les Red Bulls en 2016 à Sun. À domicile, c'était 0-0 à la pause, puis on avait vu des images du vestiaire à la pause. Puis t'avais Pat Bernier, Marco Donadel qui était devant un tableau de tactique puis qui regardait comment il y avait une certaine rotation au milieu du terrain qui menait à une ouverture dans un des couloirs pour que Matteo Mancosu passe derrière. Un truc comme ça. Je pourrais me tromper sur exactement le point tactique, mais bref, ça ressemblait juste, tu regardais sans le contexte, ça ressemblait juste à un long ballon de Donadel qui était venu se planter devant Asun puis qui l'envoie en arrière de la défense puis Matteo Mancosu qui court puis qui essaie d'attraper ce ballon-là. Ça peut être un plan. Et là, tu voyais vraiment un Kyoto qui essaie d'exploiter ce genre de faiblesse-là, l'espace derrière les défenseurs de New York City FC. J'ai sincèrement aimé ce que j'ai vu. Mm-hmm. C'est peut-être pas parfait, mais il y avait... Puis je reviens à ma statistique fétiche des buts attendus. Aux expected goals,
ouais.
Le CF Montréal était largement au-dessus de New York City FC. Il y a quelque chose qui s'est produit dans ce match-là. J'aimais ça.
T'en as parlé brièvement, Kyoto hier qui a marqué. Puis Asun, justement, tu nous disais la semaine passée que si tu avais une déception dans cette saison jusqu'ici, c'est Kyoto parce qu'on s'attendait à beaucoup plus de lui après la saison qu'il a connue l'année dernière. Là, hier, on a revu un peu le Kyoto... Des beaux moments.
Oui, qui retrouve ses sensations. Mm. Et c'est vrai qu'on sentait un poids sur ses épaules depuis le début de saison. Je veux dire, Kyoto, les buts faciles qu'il a loupés, le manque d'efficacité qu'il a eu, on sentait que c'était plus une pression qui s'est mise, même lui-même, par rapport à la saison qu'il a vécue, la saison dernière. Et hier, j'ai senti libéré à travers ses courses, à travers ses actions. Son implication aussi, je le voyais vraiment... le but refusé pour un hors-jeu dès la première seconde. Je veux dire, on sent la rage et la volonté finalement de faire mal à l'adversaire et c'est ça que j'ai aimé chez lui hier. Et puis, il a été récompensé par un super but aussi. Et j'espère vraiment que le CF Montréal va pouvoir compter sur un Kyoto en forme parce que t'imagines, avec un Kyoto en méforme qu'on a eu dans cette première partie de saison, on est quand même quatrième aujourd'hui avec de très bonnes statistiques. Franchement, si on arrive à compter sur un Kyoto qui amène cette équipe de façon efficace et tranchante offensivement, on peut viser de belles choses, vraiment, vraiment pour cette fin de saison.
Donc, je l'ai dit, là, le CF Montréal revient à la maison pour s'entraîner. C'est un peu compliqué, ceux qui ont été vaccinés, pas vaccinés. Où se jouera le match du 17 juillet contre Cincinnati? Bon, on espère que le CF Montréal va pouvoir jouer à Montréal avec des partisans, mais je n'ose pas me prononcer sur ce dossier. C'est trop sensible. Bref. Mais ça va très bien. Ils sont quatrième. Et la saison est longue. Le classement est très serré. Une série de défaites, tu te retrouves en haut du classement. Une série de défaites, tu te retrouves en bas du classement. Bref, on comprend ce que j'essaie de dire présentement, même si c'est vraiment pas clair.
Tu es en train de dire qu'ils vont perdre 7 à 1, toi, là?
Arrête, on dirait que je suis en train de jinxer. Mais en fait, je dors pas assez, comme Olivier Tremblay. Mais concernant la CF Montréal, ce qui a retenu un peu l'attention cette semaine, c'était Mustapha Kiza qui a tenu des propos homophobes dans une story sur Instagram. Finalement, il s'est excusé. Le CF Montréal a dit que c'était inexcusable, qu'il n'endossait pas ce type de propos. Mais finalement, c'est tout. Là. Dans le fond, on a eu des excuses. Est-ce que selon vous, c'était suffisant? Aujourd'hui, en 2021, on sait que c'est un sujet sensible. Certains diront qu'il est très jeune. Bon, il vient de l'Ouganda, qui peut-être n'ont pas nécessairement les mêmes mœurs évolution sociale que nous ici en Amérique du Nord. Mais si je ne me trompe pas, je voyais dans les règlements de la MLS, les joueurs sont supposés suivre une formation à cet effet avant, quand ils font leur entrée dans la Ligue. Je ne sais pas si ça a été fait ou pas fait, mais Oli... Est-ce que c'est suffisant comme excuse? Est-ce qu'on n'aurait pas dû sanctionner une suspension, une amende, je ne sais pas?
Ben, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a eu des sanctions sans qu'on le sache aussi? On ne le sait pas, je n'ai pas d'informations là-dessus. J'espère que c'est le cas parce que sincèrement, on est ailleurs. Là. On est rendu ailleurs en 2021.
Parce que dans d'autres ligues, il y aurait une amende, une sanction, puis ça serait dit, il y aurait eu un communiqué ouvertement, on le saurait.
Oui. Mais et j'espère que la formation en question qui va la suivre ou la suivre à nouveau, puis pourquoi pas une troisième fois aussi, parce que sincèrement, c'est le genre de propos qui n'ont pas leur place dans quelques sphères de la société. En plus, quand tu es un sportif professionnel, tu dois être une forme d'exemple aussi. Puis l'excuse de la jeunesse, je n'achète absolument pas ça. Je pense que tous ceux qui ont des enfants en ce moment savent à quel point quand on est jeune, on peut être ouvert d'esprit puis être justement être réceptif à toutes sortes de choses. J'ai vraiment pas aimé qu'est-ce que j'ai vu de ça. Je suis pas satisfait non plus de la réaction. Je pense qu'il y a. Et j'espère justement qu'il y a des choses qui se sont passées dont on n'est pas conscient puis qui ont été assez sévères. Merci.
Mais un joueur qui dépasse les bornes, là, c'est pas la première fois, mais moi, non. C'est plus la gestion du dossier par après. Asun, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu couvertement, justement, le CF Montréal ou la Ligue Civis?
Je partage le point de vue d'Olivier. Je pense qu'on n'a pas toutes les informations et la façon dont le CF Montréal a voulu traiter ce dossier. Alors, il y a l'aspect public. Bien entendu, le CF Montréal s'est tout de suite désolidarisé et a incité le joueur à suivre une formation d'éducation pour éviter justement ce type de problème. Mais je pense et j'espère que la sanction interne a été à la hauteur finalement du poste qui a été fait. Pourquoi ? Parce qu'on est en 2021 aujourd'hui et plus que ça, je ne comprends pas comment les joueurs arrivent encore à se mettre dans des situations pareilles. Alors oui, faut pas le jeter sous le bus non plus, parce que s'il le fait, c'est par manque d'éducation et par bêtise. Ouais. Mais je veux dire, tu le sais qu'en faisant ça, tu t'exposes à des sanctions, mais automatiques, quoi. Je veux dire, je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, sincèrement. J'essaye de me mettre à sa place et c'est compliqué. Ouais. Et comme tu l'as dit aussi, il y a eu beaucoup de scandales aussi sur d'autres sujets, par des joueurs dans le passé, qui ont fait des bêtises tout aussi énormes. Ça arrive dans tous les clubs, à tous les niveaux. Mais je n'arrive pas à me mettre dans la place justement de ces joueurs et de se dire comment ils arrivent à se compromettre autant par des postes qui sont juste stupides. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et de l'autre côté, on en arrive là encore à se dire qu'il y a un travail d'éducation à avoir, à les sensibiliser aussi, et sur toute forme de discrimination. Et je trouve que voilà, s'il l'a fait, c'est par bêtise. Et si c'est par bêtise, il faut l'éduquer. Il faut pas le brûler. Il faut pas le condamner de cette façon. Je pense que c'est la façon la plus évidente, mais peut-être pas la plus intelligente. Je pense qu'il faut le prendre, discuter avec lui et lui dire que ce genre de propos n'ont plus leur place en 2021 aujourd'hui.
En tout cas, en attendant, si tu regardes le terrain, t'as Lassi Lapalainen qui joue à gauche, Mathieu Choignard qui joue en latéral.
Exact.
On fait rentrer Zach Broguillard, on envoie Choignard à gauche. On enlève Choignard, on fait rentrer Waterman comme renfort défensif. Je sais pas si c'est nécessairement un message qu'on envoie, mais chose certaine, il va pas sur le terrain pour l'instant. Non, et j'ose espérer que, même si c'est... Je ne veux pas m'avancer là-dedans parce que je ne veux pas interpréter les intentions de Wilfried Nancy. Mais force est d'admettre que Kizza, en ce moment, n'a pas sa place sur le terrain et j'ose espérer qu'il en tire des leçons.
Peut-être que c'est un message qu'il envoie Kizza, mais si on veut éduquer, je pense qu'une bonne façon de le faire aurait été justement d'ouvertement dire « il est sanctionné » pour lancer un message, puis tu dis que c'est inexcusable au sein de l'organisation, mais finalement... Puis, si vous me dites probablement peut-être qu'il a été sanctionné, mais on ne le dit pas, pourquoi ne pas le dire? Je trouve qu'on a manqué une belle occasion. Bref, on parlait du téléroman Toronto FC. On va continuer de suivre celui du CF Montréal. Bref, la MLS, cette ligue... Comment tu as dit ça? Cette maudite ligue.
Cette maudite ligue.
On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais... Merci beaucoup, les garçons. Merci, Asun, en direct de quelque part.
Oui, merci, Christine. Je voulais juste prendre le temps... Oui. De rendre hommage à un jeune du CF Montréal qui a perdu la vie la semaine dernière, Yannick Gagné. C'est ça, lui rendre hommage, lui dédicacer ce balado.
Ouais.
Et mes condoléances à ses proches et à sa famille dans cette période difficile et au CF Montréal aussi par la même occasion.
Ouais. Très bien dit, on partage.
Partir à 29 ans, c'est franchement... C'est franchement cruel et pour le peu que j'ai pu, parce que j'ai pu travailler avec Yannick pendant quelques mois, c'était quelqu'un qui avait le sourire et le rire et la blagounette facile, j'en suis convaincu, ensoleillait les bureaux du CF Montréal quand on pouvait les fréquenter. Alors mes condoléances aussi à sa famille et à ses proches.
Voilà, mes condoléances à la famille. Merci beaucoup les garçons. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.
Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.